Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Signore e signori, per piacere mantenere le distanze.
Bonjour à tous. Avec la rentrée de l'école et l'arrivée de l'automne, l'Europe entre dans une phase décisive dans la gestion de la pandémie, nous dit l'Organisation mondiale de la santé. Et en effet, les contaminations Covid sont à la hausse en France, en Espagne, en République tchèque, avec à l'horizon la crainte de voir arriver cette fameuse deuxième vague de l'épidémie. Nous commencerons notre tour d'Europe avec l'Italie, premier pays touché par la pandémie et qui affiche un très lourd bilan de plus de 35 000 morts. La courbe de la contagion est remontée cet été, mais reste limitée à 1 500 nouveaux cas par jour, contre 8 à 10 000 en France. Comment l'expliquer ? À Rome, Eric Sénanque a tenté de voir plus clair.
Tout est peut-être avant tout une question de discipline. Beaucoup pensaient, à commencer dans les pays voisins, que les Italiens étaient par essence peu respectueux des règles. La pandémie de coronavirus a cassé ce cliché, montré qu'en matière de santé, les habitants de la péninsule ont pris très au sérieux la menace. Gianluca, qui tient un bar dans le centre de Rome, n'hésite pas à mettre dehors les clients sans masque. Pour lui, le respect des règles reste non négociable. Le meilleur moyen, selon lui, d'enrayer l'épidémie est de faire confiance aux autorités politiques et scientifiques. Ce qu'ils peinent à voir chez les Français en particulier.
Ils ont pris la situation à la légère, cette fameuse grippe qui n'en est pas une, soyons sérieux. Il faudrait écouter ce que dit l'OMS qui ne raconte pas de mensonges. Certains te disent qu'on nous cache des choses. Je ne veux pas juger, mais je pense qu'on devrait respecter plus les institutions, quel que soit le pays, et ne pas rigoler avec le masque, car ce n'est pas un jeu. On devrait tous respecter ce que l'on nous dit et ne pas se rebeller, parce que c'est la rébellion qui aggrave la situation.
L'une des explications qui revient aussi, c'est la peur. Elle a été un moteur au plus fort de l'épidémie. Peur de contaminer ses proches, bien sûr. Peur aussi des mesures de rétorsion. Dans tout le pays, la police a multiplié les amendes, comme en Campanie, la région de Naples, où le gouverneur a menacé de punir de 1 000 euros ceux qui ne portaient pas de masque. Dans un pays où l'importance de la famille reste très forte, les raisons sociologiques ont sans doute également joué, comme nous l'explique Riccardo Antoniucci, un jeune journaliste croisé dans le quartier populaire de Testaccio à Rome.
Ici, on a plutôt tendance à identifier tous les moments où les gens ne respectent pas les règles, mais il y a quelque chose qui caractérise la base de la culture italienne, qui est le respect de la famille et surtout le respect des gens avec qui on habite. On a souvent tendance à habiter avec ses parents, ses grands-parents. Et effectivement, les gens se font un problème du fait d'éviter que la contagion se reprend. On a encore tendance chez nous à essayer d'éviter, par exemple, de toucher ou d'embrasser ses grands-parents, ou d'avoir des contacts sociaux qui pourraient mettre à risque sa propre famille.
Comme beaucoup d'autres pays, l'Italie a été prise de court par la violence de l'épidémie au printemps, mais les mesures drastiques de confinement imposées par le gouvernement dès les premiers jours de mars et un déconfinement très méthodique semblent avoir joué aussi dans le ralentissement de la contagion. Comme l'expliquait fin août le président de la Fondation médicale Gimbe à Bologne, qui réalise des études sur les dynamiques de l'épidémie, l'Italie se retrouve dans de meilleures conditions en raison d'une période de confinement plus longue et rigoureuse. La prudence reste néanmoins de mise chez les Italiens suite à la multiplication des cas liés aux vacances, mais pas question de parler ici d'une deuxième vague.
Il est interdit de se rassembler. Il est interdit de s'embrasser. Il est interdit de se serrer la main.
Et en Espagne, c'est à nouveau l'inquiétude, avec plus de 10 000 nouveaux cas par 24 heures. Madrid est à nouveau le principal foyer de contagion. Et pourtant, les mesures sanitaires sont strictes, masques obligatoires dans tous les espaces publics et des réunions limitées officiellement à 10 personnes. Mais dans les faits, après l'été, on observe un vrai relâchement. Explication à Madrid de Diane Cambon.
Samedi soir, à Madrid, la place de la Vidée, en plein centre de la capitale, a des airs de fête. Les enfants jouent sur les trottoirs et les terrasses sont bondées. À une table, un groupe de 12 jeunes âgés entre 20 et 25 ans partagent 3 assiettes de tapas, une tortilla, l'omelette espagnole, des calamars frits et des croquettes de morue. On mange allègrement au-dessus du même plat et on trinque sans chichi, en oubliant les gestes barrières les plus élémentaires comme maintenir la distance. Pour Susana, une étudiante en architecture, cela n'a rien de choquant.
Non, 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 ça m'y est. On n'a pas vraiment peur, on est très courageux. Plus sérieusement, il y a peu de risques car on est la même bande de copains. Je pense que la situation est assez contrôlée ici, entre nous les jeunes. Et puis, on ne se voit pas tant que ça. Et dans la rue, on porte le masque. Et si on fume, on s'éloigne les uns des autres.
Au fur et à mesure que les mois passent, la confiance revient, comme l'explique Juan, assis de l'autre côté de la table.
Au début, oui, c'est vrai, on avait un peu plus de crainte. Mais maintenant, on se sent plus rassuré. C'est inévitable, car sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut plus nouer de contact.
Le tempérament festif des Espagnols inquiète Ricardo Furio, responsable du syndicat des infirmiers, SATC, et infirmier à l'hôpital Infanta Leonor dans la banlieue sud de Madrid, situé en première ligne du Covid. Sur les 250 lits de l'hôpital, 180 sont déjà occupés par des patients du coronavirus.
En Espagne, c'est sûr, on est très habitué à être ensemble. La famille, les amis, on sort tous en groupe dans les rues et on établit beaucoup de contacts. Et c'est surtout vrai chez les jeunes qui se prennent dans les bras en se faisant des bisous, mais ils ne se rendent pas compte que si l'un d'eux est contaminé, il va transmettre le virus à ses parents ou grands-parents.
Les spéculations autour des erreurs de comptage, le professeur de médecine à l'université d'Alicante, Ildefonso Hernández, n'y accorde qu'une importance relative. Pour lui, d'autres facteurs sont à l'origine du second pic de coronavirus, comme la mauvaise communication des pouvoirs publics sur les mesures de prévention.
Les mesures prises sont trop générales. Du coup, les gens ont du mal à les appliquer. Parfois, les consignes imposent le port du masque sans raison valable. Et dans d'autres cas, alors qu'il y a des risques, il n'est pas obligatoire. La population ne peut pas s'y retrouver. Et les jeunes, encore moins. D'autant qu'ils savent qu'ils courent très peu de risques.
Autre facteur pointé du doigt, le manque de moyens pour freiner l'épidémie. La santé, comme l'éducation, est une prérogative de chacune des 17 régions espagnoles. Or, tous les gouvernements régionaux n'investissent pas de la même façon dans la santé publique. Comme le remarque le médecin Ildefonso Hernández, qui épingle Madrid, gouverné depuis des décennies par les conservateurs.
Madrid est l'exemple parfait du manque de moyens consacrés à la détection précoce des cas, au suivi et à l'isolement des cas contacts. À Madrid, le manque d'investissement dans la santé publique est frappant. On le voit en comparant avec d'autres régions qui s'en sortent mieux pour contenir le Covid. Les chiffres de transmission sont beaucoup plus élevés dans la capitale.
Le nombre de cas explose, notamment dans les quartiers les plus populaires de la périphérie sud de Madrid, où la population vit davantage les uns sur les autres et où l'accès à la santé privée est quasiment inexistante. Ce qui fait dire aux spécialistes que ce nouveau pic de Covid touche en particulier une population défavorisée qui ne peut privilégier le télétravail ou le transport individuel.
Et le gouvernement espagnol qui vient d'annoncer un reconfinement partiel des zones les plus touchées par la pandémie à Madrid. Isolation slowed the growth. COVID-19 here to stay. Psych cure is on its way. Elbow tap, don't dap me up. Staying home will snatch the dub. Let me spit a random fact. This pandemic. Et l'Allemagne, déjà montrée comme un exemple en début de pandémie, peut encore se targuer de résultats satisfaisants. Peu de morts et 1600 nouveaux cas par jour. Bonjour Julien Méchaussy, vous êtes notre correspondant à Berlin. Vu de France, on a vraiment l'impression que l'Allemagne s'en sort beaucoup mieux.
Et si on prend les chiffres bruts, Frédéric, ce n'est pas qu'une impression. Un peu moins de 9 500 morts ici contre plus de 30 000 en France. L'Allemagne recense 263 000 cas quand la France en compte 390 000. Et au plus fort de la pandémie, au printemps dernier, on a souvent mis en avant la politique plus efficace de tests mise en place très tôt. Mais aujourd'hui, cet argument ne tient plus. Les deux pays effectuent le même nombre de tests par semaine, soit environ 1 million.
Mais alors comment expliquer un tel écart, d'autant que le confinement a été bien moins strict en Allemagne, par exemple. Il n'y a toujours pas d'obligation de port du masque à l'extérieur.
Il n'y a pas de réponse simple à cette question. C'est plutôt un faisceau de mesures qui a permis jusqu'ici d'éviter la catastrophe et des hôpitaux saturés. Si le premier cas de Covid-19 a été recensé le 27 janvier dernier en Bavière, l'Allemagne se préparait déjà depuis plusieurs semaines à la pandémie, avec une stratégie et une capacité de test déjà prête. Et il y a eu aussi sûrement une meilleure communication de la part des autorités. Dès le départ, le port du masque a été mis en avant comme une mesure essentielle, avec beaucoup de pédagogie, sans avoir eu besoin de décréter l'état d'urgence sanitaire. On pourrait également citer un autre élément qui, en temps normal, pourrait être qualifié de cliché, de stéréotype. Les Allemands, dans leur grande majorité, ont fait et font preuve de civisme, comme l'a d'ailleurs souligné à de nombreuses reprises Angela Merkel.
Et en Allemagne, on a aussi pointé du doigt l'aspect parfois absurde des mesures prises en France, avec par exemple des plages fermées et dans le même temps des gens qui s'entassaient dans les transports publics.
Oui, car l'Allemagne a grandement profité de ce que la France n'arrive toujours pas à mettre en place malgré 40 années de réformes, la décentralisation. Il est inimaginable ici de voir Berlin décider seul de mesures qui concerneraient tout le pays. Et bien que souvent décrié, le fédéralisme a parfaitement fonctionné ces derniers mois avec des régions et un pouvoir central qui ont toujours su trouver le bon compromis, ce qui a permis de s'adapter aux spécificités régionales et même très locales. Car il existe ici un véritable partage des pouvoirs de décision entre les Länder, le gouvernement et les professionnels de la santé. Il est d'ailleurs à noter que la santé n'est pas une prérogative fédérale, mais bien des Länder. Et c'est cette décentralisation qui permet la présence de multiples acteurs qui cohabitent sur tout le territoire avec très peu de déserts médicaux. Et le meilleur exemple en est certainement le nombre élevé de laboratoires privés qui ont permis, dès janvier, la mise en place de tests à grande échelle et ce, au plus près de la population.
Merci Julien, Michi aussi, à très bientôt. Prudence au Portugal qui vient de placer le pays en état d'alerte de protection civile au niveau 2 sur une échelle qui n'en compte que 3. Dans un pays qui annonce 600 contaminations par jour, le gouvernement a lancé une application Stay Away Covid qui devrait aider à mieux détecter et isoler ces fameux cas contacts. Et on peut dire, Marilyn Darcy, que l'application connaît pour l'instant un vrai succès.
L'engouement est certain. Les téléchargements de l'application Stay Away Covid n'ont pas encore atteint 1 million sur une population totale de 10,3 millions d'habitants, mais s'en approche. De téléchargement simple et rapide, Stay Away Covid permet de recevoir l'indication que l'utilisateur n'est pas à proximité d'une personne testée positive. Pour qu'elle fonctionne, le propriétaire du téléphone portable doit activer le Bluetooth de son appareil et bien sûr l'accès à Internet. Quant à l'information, c'est celle qui est fournie par le SNS, le Service National de la Santé. En effet, une personne testée positive reçoit un code transmis par le SNS, puis doit ensuite introduire ce même code dans le système. C'est donc sur la base du volontariat que cette information utile peut être rendue disponible. À ce jour, seulement 17 cas positifs se sont enregistrés sur la plateforme, provoquant 32 appels téléphoniques au SNS de la part d'utilisateurs souhaitant connaître la marche à suivre. C'est peu. Et à ce stade, il est difficile de comprendre pourquoi si peu de cas positifs se sont déclarés. La peur d'être identifié peut-être, bien que toutes les garanties d'anonymat soient données. Quant aux utilisateurs, ils reconnaissent se sentir rassurés avec l'application, mais beaucoup avoir fait le téléchargement, puis s'en sont désintéressés.
Et pour notre chronique en un mot, nous examinons aujourd'hui un drôle de mot, un mot valise, comme on dit, qui vient de faire son apparition au Royaume-Uni. Le pays connaît un des pires bilans européens du Covid et affiche 22 000 nouveaux cas en une semaine. Il doit aussi compter avec le retour d'un débat virulent et empoisonné sur le Brexit, la sortie de l'Union européenne. Marie Billon, vous êtes notre correspondante à Londres. Bonjour.
Bonjour Frédéric.
Autant dire que la combinaison de ces deux catastrophe annoncée a suscité une floraison de nouveaux mots.
Mais oui, la langue britannique est si malléable que de nouvelles expressions apparaissent très régulièrement. Et depuis l'avènement du mot Brexit, combinaison de britannique et exit, la sortie, les mots porte-manteau, composés de petits bouts de deux mots, ont un fort succès. Le lexicologue Tony Thorne nous parle d'un nouveau mot qui a scellé le mariage entre le Brexit et la Covid.
Brovid, C'est une expression assez bizarre qui veut dire le combinaison de deux crises en même temps, simultanément Brexit et le virus Covid. Donc Brexit plus Covid. Et l'expression nouvelle essaie de décrire une catastrophe, une situation dans laquelle on doit confronter en même temps ces deux choses, ces deux phénomènes.
Alors il ne faut pas non plus imaginer que ce mot soit si fréquemment employé par les Britanniques au quotidien. Il est surtout utilisé dans les milieux politiques et journalistiques, mais ça embrouille un peu car le mot « brovid » existait déjà, dit Tony Thorne. C'était la contraction de « bro » qui signifie « pote » et « vide » pour « vidéo ». Ça signifiait des jeunes hommes regardant des vidéos douteuses ensemble. Donc, comme le dit le linguiste, d'autres essais ont été faits pour décrire le mariage funeste de Brexit et Covid.
On a suggéré Brexit, Covid, exit plus Covid, et même un mot fantastique, Britastrophe, combinaison de britannique et catastrophe.
Alors attention, ça se complique. Exit ne rime pas toujours avec Brexit, ça veut aussi dire la sortie du confinement. Et là encore, les médias se font plaisir avec des mots valises.
Covexit, ça veut dire la sortie ou l'assouplissement du confinement. Loxit vient du mot anglais lockdown, confinement en français. Donc exit, sortie, donc loxit, c'est la sortie du confinement. Un des mots que j'aime beaucoup moi-même, c'est nostalgia, qui vient de lockdown, confinement, et nostalgia, nostalgie. Et cela veut dire que certains gens, comme moi par exemple, en pensent à la paix durant le confinement, avec une sorte de tendresse, une sorte de tristesse.
Alors Marie, revenons au fameux brovid. Si on a voulu contracter en un seul mot deux catastrophes, c'est bien parce qu'aux yeux des commentateurs, le gouvernement s'avère incapable de gérer la première catastrophe, le Covid.
Oui, on peut parler des atermoiements, des changements de direction, des volte-face multiples et variés du gouvernement depuis le début de la crise sanitaire. Il y en a eu peu d'une dizaine. L'application Stop Covid britannique, par exemple, qui était d'abord un atout indispensable dans la lutte contre le virus, avant de devenir un petit plus bien sympathique, mais pas fondamental. Et puis il y a le scandale des notes pour les collégiens et lycéens et l'équivalent de leurs brevets et bacs. Leurs notes devaient être décidées par un algorithme. Il a tellement abaissé les notes, ajustées pour éviter les inflations dues aux notations de profs trop généreux, que tous les élèves se sont vus pénalisés. Revirement du gouvernement, l'algorithme mutant fut retiré par un premier ministre dont on n'a pas salué la rapidité, puisque moins de 15 jours avant, l'Écosse avait eu le même problème et était arrivée à la même conclusion, sans insulter l'algorithme pour autant. Bref, c'est un changement de direction, une volte-face, un U-turn, comme on dit en anglais, un demi-tour, et ça, ça a du poids chez les conservateurs.
U-turn if you want to.
Faites demi-tour si vous voulez, mais cette lady-là ne fait pas demi-tour. On a reconnu, bien sûr, la voix et la fameuse phrase de Margaret Thatcher, ancienne première ministre conservatrice, qui n'était pas avare de bons jeux de mots également.
Et justement, en parlant d'Europe et de volte-face sur le dossier Brexit, on change beaucoup d'avis. Et on s'attend au pire.
Oui, on en parle de plus en plus, hein, de no deal, d'absence d'accord entre le Royaume-Uni et l'Europe. Le gouvernement britannique menace de ne pas respecter les lois internationales et de revenir sur l'accord de retrait signé il y a seulement quelques mois pour clore la première étape des négociations du Brexit. Un ministre a dit que Londres comptait enfreindre la loi de manière très limitée et spécifique pour éviter d'imposer une barrière douanière entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. De manière très limitée et spécifique, des mots rassurants pour annoncer un vrai scandale selon certains, un pays démocratique qui ne respecte pas ses engagements internationaux. Autant dire que la stratégie politique du gouvernement Johnson reste la même, cultiver les passions et les émotions. Le Brovid a encore un bel avenir devant lui.
Merci Marie Billon à Londres. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Vous nous retrouvez toujours sur le site de RFI à la rubrique podcast et sur les réseaux sociaux. À demain.